There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute.
Louis.
Quand mon fils aîné est entré en CM2, il nous a demandé s'il pouvait aller tout seul à l'école le matin. De notre maison à l'école, il y avait 300 mètres, avec un trottoir tout le long et une unique rue à traverser avec passage piéton. À sa question, légitime quand on a 10 ans, j'ai frissonné une seconde avant de dire oui. Dans ce frisson, il y avait plein de questions non prononcées, comme « Est-ce bien raisonnable ? Est-il suffisamment mature, attentif, autonome ? Est-ce que les autres enfants de 10 ans vont à l'école tout seuls ? Et surtout, des « et si ». Quand on est parent, les « et si », c'est une certaine forme de torture mentale. Et si une voiture arrive à toute vitesse ? Et si il se trompe de chemin ? Et si il croise la route d'un individu malveillant ? Brusquement, ces 300 mètres familiers me semblaient dangereux, hostiles. Mais plus tard, en y repensant, je me suis souvenue de mes années d'école primaire à moi. Non seulement j'allais seule à l'école, qui était plus loin de chez moi, mais en plus j'y allais à vélo, même lorsqu'il pleuvait. J'allais aussi chez mes copines toute seule, à pied, et ce, sans téléphone portable. Je réalise que le monde me semble plus dangereux aujourd'hui que lorsque j'étais enfant. L'est-il réellement ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les médias et les politiques ont probablement leur part de responsabilité dans nos façons de nous sentir en insécurité dans l'espace public. Et cette influence n'épargne pas les parents, qui sont abreuvés d'informations anxiogènes et de faits divers. En septembre 2021, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'exprime au sujet des quartiers populaires sur France Inter et reprend la phrase du groupe NTM pour enjoindre les parents à ne pas laisser traîner leur fils. À cette déclaration, la politologue et militante féministe Fatima Wassak, autrice de l'essai « La puissance des mères », répond sur Twitter « Nos enfants n'ont pas à être tenus en laisse dans nos HLM comme le demande Darmanin. » Nos filles ont le droit, eux aussi, de circuler librement dans l'espace public, courir et jouer dehors. Notre rôle est de faire en sorte qu'ils y soient en sécurité et heureux. Organisons-nous pour ça. Dans cet épisode, la journaliste Estelle Janjo enquête sur les fondements du sentiment d'insécurité et sur la façon dont il peut être instrumentalisé par les médias et les politiques. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
Un soir d'avril 2019, alors que je rentrais d'une fête avec des amis, j'ai eu la sensation que quelqu'un me suivait. Il était presque 2h du matin et je marchais seul dans une petite ruelle. J'avais réussi à attraper le dernier métro et je n'avais plus qu'à faire une centaine de mètres jusqu'à chez moi. J'ai commencé à entendre des bruits de pas, puis des rires étouffés. Je me suis retournée. Je revois cette ombre au bout de la rue, une forme que je n'arrive pas à décrire. À ce moment-là, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, mais pas de musique. Sans vraiment m'en rendre compte, mon pas est plus pressant. Et puis, j'accélère franchement. je n'ose plus me retourner par peur que la personne qui me suit comprenne que je l'ai remarqué. Mais je finis par tourner légèrement la tête. Cette fois-ci, c'est bien réel. Ce n'est pas qu'une impression. Deux mecs marchent derrière moi. Encore trois rues et je serai arrivée chez moi. Je tourne brusquement à droite. Cette fois, ils ne peuvent plus me voir. Alors je cours. J'arrive essoufflée dans mon hall d'immeuble. C'est bon, je suis rentrée. Je me sens soulagée. Une fois arrivée chez moi, je me pose sur mon lit. Et je me dis que j'ai été bête. J'ai peut-être exagéré. Ces deux mecs ne me voulaient pas forcément du mal. Mais je suis une femme et je vis en ville. Je fais donc partie de la catégorie la plus sujette au sentiment d'insécurité d'après l'INSEE. En 2019, plus de 14% des jeunes femmes déclarent se sentir personnellement en insécurité dans leur quartier ou dans leur village, contre 8% chez les hommes. Et ce sentiment d'insécurité, en dehors des chiffres de l'INSEE, que je redécouvre en travaillant sur cet épisode, j'en ai déjà entendu parler. Dans les journaux télévisés, dans la bouche des politiciens en campagne. Ce sentiment d'insécurité, je sais qu'il est régulièrement instrumentalisé par certains hommes et certaines femmes politiques. On le brandit comme un éventail sur les chaînes d'infos en continu. Ce thème revient systématiquement à l'approche de chaque élection. Alors je me suis demandé, comment en est ce sentiment d'insécurité ? Ce sentiment est-il toujours justifié ? Quand je me sens en insécurité dans la rue, suis-je réellement en danger ? Ou est-ce que je projette mes peurs sur un inconnu ? En somme, notre sentiment d'insécurité est-il réel ou parfois le fruit de nos projections et de nos fantasmes ?
J'ai le souvenir d'un gars qui nous suivait en vélo assez régulièrement avec des amis à moi. Et en fait, c'est vraiment... Il y avait des gars qui nous suivaient en vélo, des gars qui nous ouvraient un peu le manteau en mode « je suis tout nu », des gars qui nous suivaient en se touchant l'entrejambe.
Sam, que vous venez d'entendre, c'est le stéréotype de la femme badass charismatique. Comme beaucoup de femmes, elle a ressenti un sentiment d'insécurité dans l'espace public. Et pour elle, ça a commencé à l'adolescence.
C'est un exercice difficile de se décrire. Je suis rasée sur les côtés, j'ai les cheveux longs en chignon en haut, du coup, ça donne un peu, on ne sait pas trop d'où je viens, et en même temps c'est exotique, en même temps c'est un peu punk. Je pose comme masculine, c'est-à-dire, en général, j'aime bien porter des grosses chaussures, des docks ou des trucs qui fassent un peu bien lourd dans l'espace, qui font un peu de bruit.
Sam est née et a grandi à Strasbourg. Ado, elle est régulièrement harcelée sexuellement dans la rue. On lui fait remarquer ses jupes courtes. Aujourd'hui, Sam a 40 ans. Elle forme d'autres femmes à se défendre auprès de l'ARCAF, l'association d'autodéfense et de ressources pour le choix et l'autonomie des femmes. Elle a accepté de m'accueillir au sein de la Pigeonne. C'est un squat queer, féministe et antiraciste dans le nord-ouest de Strasbourg. Elle s'y est installée l'année dernière avec sa compagne et d'autres militantes.
Je suis née, j'ai vécu à Strasbourg jusqu'à mes 16-18 ans. J'ai habité dans un quartier populaire, Haute-Pierre, Cronenbourg. Et du coup, il y avait vraiment une différence entre la ville et le quartier. Et même si quand t'es enfant, le quartier, c'est la maison, c'est la communauté, c'est chaleureux, tu te sens en sécurité. Je suis née dans une famille plutôt ma mère était seule, ma mère algérienne, dans un quartier, avec quand même beaucoup de familles et beaucoup de femmes aussi. Comme je disais, c'était un contexte familial assez sécurisant jusqu'à une certaine période où j'ai senti que dans la rue, j'étais très, très sexualisée. Et du coup, j'ai jamais été vraiment à l'aise à avoir cette performance de femme, mais c'était un truc qui était un peu obligé. J'avais des cheveux longs, j'étais plutôt maquillée, les yeux très noirs, comme ça, pas trop de rouge à lèvres, mais je portais jamais de décolleté. Mais j'aimais bien les mini-jupes, les mini-shorts, et tout, plutôt avec des bottes, par exemple. Je me faisais draguer parce que j'étais une meuf, hein. J'étais bonne quand même, mais je me fais draguer comme pas mal de meufs. Ou en fait, draguer ou juste, on te dit t'es moche, t'es belle. En fait, on te donne son avis sur tout ce qui te constitue.
Pour Sam, si elle se fait siffler dans la rue, c'est à cause de son look ultra féminin. Évidemment, ce n'est pas le cas. On sait que le problème vient des harceleurs. Mais à cette période-là, Sem a 16 ans. Au moment de l'adolescence, on est plus vulnérable. On a tendance à faire plus attention au regard des autres. La conséquence, c'est que pour elle, l'espace urbain devient hostile. Sem a l'impression de devenir une proie.
En fait, j'ai pas l'impression qu'il y avait un moment où j'étais tranquille, en fait. Comme si ce que je portais, ça disait quelque chose sur ma disponibilité et que j'étais forcément super disponible et que... comme s'il n'y avait pas de limite entre moi et l'extérieur. Je savais pas quoi faire. En général, je réagissais comme ça. J'étais tétanisée, je fuyais, je racontais pas les choses, j'avais honte.
Sem vit mal cette vulnérabilité que le sentiment d'insécurité lui procure. Ce qu'elle me décrit, c'est un sentiment d'insécurité qui se traduit dans le corps, par les sens. C'est un schéma classique lorsqu'on est face à une situation inattendue. C'est ce que Nathalie Georges, directrice de recherche au CNRS et chercheuse à l'Institut du cerveau, m'a expliqué.
D'un point de vue très général, le cerveau, je pense qu'avant tout, il a une grande capacité à détecter toute situation qui va être nouvelle, inattendue, non familière. Ça veut dire que, en général, cette situation va se présenter sous l'un de vos sens, un bruit, quelque chose que vous voyez, une personne que vous voyez, des craquements quand vous marchez dans une forêt. Ça veut dire que le cerveau a appris à associer tel type de situation à telle conséquence. Et dans ce cas-là, il va être à nouveau capable de redétecter ça vite via des systèmes de mémoire. Ça va déclencher d'abord ce qu'on appelle des réactions d'alerte. C'est-à-dire que ça va élever le niveau d'attention, de vigilance du cerveau. Et le cerveau, ensuite, il est capable d'envoyer des commandes motrices, pour faire réagir votre corps, vous faire vous immobiliser, vous retourner brutalement, fuir ou attaquer, on dit souvent. Vous décidez face à une situation. Vous avez la première réaction qui est de sursauter. En forêt, c'est ce qui vous arrive quand vous sursautez, vous avez cru voir un truc bouger et puis c'était juste un bout de bois et pas un serpent. Mais vous avez sursauté. Bon, dans la rue, vous avez un petit moment de tension, quelque chose vous alerte. Et puis vous décidez.
Cet état de vigilance dont parle Nathalie Georges, c'est une posture que beaucoup de femmes adoptent, lorsqu'elles prennent les transports en commun, par exemple. Pourtant, dans les transports en commun ou ailleurs, le sentiment d'insécurité est réel. On ne peut pas nier le ressenti d'une femme qui est tétanisée par la peur ou par le danger. Mais parfois, nos émotions ne sont pas nécessairement fondées sur des réalités. Elles sont influencées par des biais cognitifs qui modifient notre rapport aux informations extérieures. Par exemple, certaines femmes vont avoir peur de se retrouver seules dans une rame de métro, face à un homme à une heure tardive. La plupart des femmes sont dans un tel état d'hypervigilance qu'elles intègrent parfois inconsciemment certains clichés. Ces stratégies d'hypervigilance, Patrick les a vite remarquées. Patrick a 30 ans. Il est consultant en informatique à La Défense, le quartier d'affaires de Paris. Et il prend régulièrement les transports en commun. Dans le RER, il a remarqué que les femmes ont tendance à l'éviter et à rapprocher leur sac à main près d'elles en le voyant. Moi-même, j'en ai fait l'expérience la première fois que j'ai rencontré Patrick. J'ai été impressionnée par sa carrure.
L'histoire avec mon père, elle est tout à fait vraie. Mon père, ah oui, mon père fait 1m76, il t'a vu arriver, il était pas bien.
Patrick et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Il a vécu chez mes parents un moment. On peut dire qu'avec son physique, il ne passe pas inaperçu.
Je suis un homme noir, 1m86, pour plus de 100 kilos. Ceinture marron de judo. Donc j'ai une carrure assez imposante et je suis arrivé en France il y a 7 ans à peu près, donc en provenant du Cameroun, pour finaliser un master en finance. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler comme consultant dans l'informatique.
Patrick, est-ce que tu peux me raconter un petit peu au quotidien comment les personnes te perçoivent dans la rue ?
Déjà dans la rue, à chaque fois que je suis sur le trottoir et que je rencontre une femme, généralement plus de la quarantaine, elle change de trottoir, ou elle met des visages, ou généralement elle rapproche un peu plus son sac à main d'elle. Dans les transports en commun, c'est souvent pareil, donc si je suis assis sur une place assez exiguë et comme je prends beaucoup de place, donc généralement je propose la place à côté de moi ou en face de moi, et... il arrive qu'il y ait des femmes qui me dévisagent et qui aillent chercher une autre place, par exemple. D'autres situations, c'est typiquement quand il faut se serrer, généralement, dans le métro. Et ça peut arriver qu'elles s'éloignent un peu plus de moi que d'autres hommes qui sont, à contrario, blancs. Bon. on va pas aller sur le terrain du racisme, mais ça en dit long. Moi, c'est ma perception.
En tant qu'homme noir, Patrick sent bien qu'il suscite un sentiment d'insécurité. Il est grand, baraqué, et regroupe plusieurs stéréotypes qui le font passer pour quelqu'un d'apparemment dangereux auprès de certaines personnes. Le physique de Patrick renvoie en fait à un imaginaire raciste et colonial qui reste bien ancré. Et tous ces stéréotypes qui pèsent sur Patrick, ce sont des choses qui sont véhiculées par nos écrans, par les discours qu'on peut entendre dans les médias ou dans la bouche des politiques. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur dans la rue le soir quand je rentre ? La peur, elle, est bien réelle. Mais les émotions naissent toujours à partir d'une pensée qui n'est pas toujours fondée sur des faits existants. Alors qu'en est-il de la réalité ? En avril 2002, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen sont arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle. C'est la première fois qu'un candidat d'extrême droite arrive aussi près des portes de l'Élysée dans l'histoire de la Ve République. Les journalistes et politologues expliquent l'arrivée de Le Pen du fait du trop grand nombre de candidats, 14 au total, de l'abstention ou encore des attentats du 11 septembre, arrivés quelques mois plus tôt. Avec le recul, les médias traditionnels se sont rendus compte que les questions sécuritaires ont pris une place spéciale dans cette campagne. Ça, c'est ce que j'ai appris en lisant le rapport de l'unité de bruit médiatique. C'est un outil qui comptabilise la répétition d'un même thème dans un média. Cet outil révèle qu'en 2002, le thème de l'insécurité est plus abordé dans les journaux télévisés que la nouvelle monnaie européenne lancée la même année, l'euro. Le présentateur vedette de TF1 de l'époque, Jean-Pierre Pernaut, évoque 63 fois le thème de l'insécurité dans le seul mois de mars 2002. Les médias traditionnels enchaînent alors les faits divers et les reportages autour de la délinquance.
C'est confirmé, la délinquance a nettement augmenté l'an passé, plus 7,69%. Cette fois, ce sont des chiffres officiels.
Le JT du 20h de France 2 du 28 janvier 2002 est un bel exemple de l'obsession sécuritaire de l'époque. Le journal s'ouvre sur une succession de reportages autour de l'insécurité, employant des termes angoissants. David Pujadas parle alors de l'augmentation des chiffres de la délinquance, illustrée par deux reportages en immersion avec la gendarmerie. En pleine nuit et dans la rue, des personnes noires sont soumises à des contrôles aux faciès par la police. On évoque le chiffre de 10% de délinquance en zone rurale, désormais présenté comme « n'étant plus épargné ». Puis, le journaliste enchaîne sur l'agression d'un chauffeur de bus en Picardie. Le journal poursuit sur un reportage dans le Haut-Rhin, dans un village dit rural et sans histoire il y a une quinzaine d'années. En immersion avec des gendarmes hyper vigilants en patrouille, la caméra capture une course-poursuite entre une petite Clio et un gendarme à pied. Sensation garantie.
Je le connais aussi, la 13XE68, je connais l'immatriculation.
À l'affût de voitures volées. Il y en a eu 500 ces deux dernières années dans cette commune de 15 000 habitants située à quelques kilomètres de Mulhouse. Au détour d'une rue, une Clio suspecte. Dans la voiture qui s'enfuit, un jeune caïd du quartier recherché depuis plusieurs mois.
Ce type de reportage, j'en ai regardé plein à la télé. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il y a vraiment un problème récent d'insécurité en France ?
Les indicateurs de violence, en tout cas, sont des indicateurs qui sont extraordinairement stables, en tout cas pour ce qui est des violences physiques.
Renée Zobermann est sociologue et autrice du sentiment d'insécurité à l'état sécuritaire.
Il y a des lieux qui sont des lieux où ces moyennes nationales sont largement dépassées. Et là, évidemment, si vous interrogez les gens sur leur vie quotidienne, ils peuvent très bien, en effet, raconter qu'elle leur est pourrie de façon régulière par toutes sortes de violences qui, noyées dans une moyenne nationale, n'apparaissent pas. Traditionnellement, il faut dire que c'est l'extrême droite qui s'est emparée la première de cette question du crime. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, progressivement, tous les partis lui ont emboîté le pas, parce qu'à mesure que le thème devenait plus central dans le discours d'un parti qui montait en puissance électorale, les autres partis se sont dit que c'était peut-être là qu'il fallait aller chercher des voix. Ce que je peux dire sur le sentiment d'insécurité, c'est que c'est un terme qui mérite d'être, comment dire, déplié. Une facette qui correspond à ce qu'on pourrait appeler la peur personnelle. Quand on dit personnel, ça peut s'étendre à ses proches. Donc ça, c'est une peur de se trouver victime soi-même, donc, ou un proche, d'un certain nombre d'infractions, qu'elles soient violentes ou simplement d'atteinte à vos biens. Le terme de faits divers est trompeur, parce que dans divers, on pourrait entendre que ça arrive tout le temps. En réalité, si un fait divers est mis en exergue par un médium et repris ensuite, c'est qu'il a quelque chose de plus terrible que l'ordinaire de la vie quotidienne. Dans les années 90, c'était déjà une configuration qui était bien établie et qui, à l'époque, avait comme assise sociale déjà un certain nombre de groupes sociaux qui étaient en difficulté par rapport à leur insertion dans la modernité économique. Des personnes plus âgées, des groupes sociaux comme des commerçants et des petits commerçants qui se trouvaient dans des situations difficiles vis-à-vis de la réorganisation du système marchand. Quand on parle de racailles et de nettoyer au Karcher un quartier, on utilise des termes qui sont délibérément violents, qui ne peuvent pas ne pas avoir d'effet d'aggravation du problème. Quand je veux dire aggravation, ce n'est pas aggravation de la nature du problème, c'est aggravation de la désignation du problème. Parce que, évidemment, on nettoie au Karcher de la saleté. On sait bien que quand on commence à parler des gens comme de gens sales, on finit par aussi les assimiler à des animaux. Et que bon, l'histoire montre que c'est toujours les grandes violences à l'égard de groupes sociaux commencent par les discours.
Ces discours marquent les esprits et les imaginaires. Être un ado et vivre dans ces quartiers ciblés par les politiques devient dangereux. On peut devenir la cible de ce sentiment d'insécurité. À l'automne 2005, plusieurs adolescents jouent sur le terrain d'un chantier en construction à Clichy-sous-Bois. La police est appelée sur les lieux pour les faire évacuer. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, les ados présents sur les lieux prennent peur et se dispersent. Ici, ce sont les jeunes qui se sentent en insécurité face aux policiers. Une course-poursuite à travers la cité commence, parmi eux Ziyed Bena, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans. Ils finissent par escalader les murs d'une centrale électrique EDF pour s'y réfugier. Les deux adolescents meurent électrocutés.
Ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, le problème, c'est qu'en situation de danger, votre cerveau, il va devenir très sélectif dans ce qu'il traite. Il va faire toute une repriorisation des informations. Il va en particulier prioriser le traitement et la réaction au danger, à ce qui a été perçu, ce que votre cerveau a diagnostiqué comme un danger, là, sans doute par association antérieure, et il va négliger le reste. Donc, c'est très important, ça, hein, parce qu'il y a des cas où ça peut permettre la survie. C'est des gens qui vous racontent, pour donner d'autres exemples, lors d'accidents, ils ont une très grosse blessure et ils ne sentiront pas la douleur. Parfois même, leur jambe a été coupée et ils ne vont pas sentir la douleur avant d'être pris en charge par les secours. Et malheureusement, là, dans le cas présent, l'information du danger couru par rapport à l'électricité, par rapport à ce transformateur, elle a été négligée. Le cerveau est très efficace pour vous permettre d'avoir des réactions rapides visant votre survie, mais ça veut aussi dire que tout le reste va être ignoré. Si là, pour survivre, il faut que vous vous jetiez en risquant de vous faire mal quelque part, peut-être vous serez capable de le faire.
Susciter l'insécurité et aussi en être victime. C'est ce qu'a vécu Patrick. Un jour, alors qu'il est en voiture dans Paris, il subit un contrôle de police.
Donc là, j'ai pris ma voiture. Voilà, je devais me rendre à Genteuil. Donc, à cause des embouteillages, du coup, je suis passé par Paris. Je vois des gyrophares. Je me dis, bon, sûrement ça doit être une ambulance qui passe ou je sais pas. Donc je me pousse sur le côté comme un bon citoyen qui laisse passer la police. Et je me rends compte qu'il y a personne qui passe. Et là, je vois un geste à côté là, de la main. Voilà, monsieur, mettez-vous sur le côté. je regarde à côté, je me dis sûrement il doit avoir quelqu'un d'autre que moi. Ça peut pas être moi. Je suis toujours en règle, moi j'ai jamais rien fait. Et oui, c'est vous, monsieur, mettez-vous sur le côté. Et là, je garde la voiture. Sur le coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout de suite mon cœur dans l'estomac. Je me dis, je n'ai rien à me reprocher. Sois clair dans ce que tu vas dire et surtout, fais attention à la boîte à gants. Il me posait pas mal de questions sur la voiture. Est-ce que c'était la mienne? Quand est-ce que j'avais acheté?
Et justement, à ces moments-là, est-ce que tu t'es senti, toi, en insécurité?
En insécurité, clairement, oui. Oui, parce qu'ils étaient quatre. On était en pleine journée. Il était 15 heures de mémoire. Il y avait plein de jeunes à Bastille. À cette heure-là, les bars commencent à peine à se remplir. La journée au beau fixe, il fait beau à Paris. Donc, je ne me dis pas qu'il va se passer quelque chose de pas bien. Et tout d'un coup, il y a un équipage de police qui m'interpelle. Il y a deux hommes et deux femmes armées qui ensacrent la voiture. Je me dis, c'est assez exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire qui nécessite un déploiement aussi impressionnant? En tout cas, pour ma part, c'est assez impressionnant. Quand on voit autant d'armes autour de moi, en tant qu'homme noir, ça fait réfléchir.
Patrick a le sentiment d'avoir l'image de quelqu'un de dangereux. Une image qui ne correspond pas à la personne calme et attentionnée que je connais. Être perçu comme dangereux a un côté déshumanisant. On est réduit à être une menace pour les autres. Je me suis demandé quelle solution il existe pour décentrer son regard sur l'insécurité. C'est Sem, notre formatrice d'autodéfense, qui m'ouvre les yeux. Dans sa vie, Sem a fait face à des violences aussi bien dans l'espace public que dans l'espace privé. Très jeune, elle a mis en place des mécanismes d'autodéfense, sans le savoir réellement, pour surmonter son sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, elle les applique plus consciemment dans les stages riposte qu'elle dispense. Son but, aider les femmes qui assistent à ces stages à identifier toutes les formes de violences subies, qu'elles soient physiques, verbales, dans la rue ou chez elles.
Du coup, la méthode Riposte, c'est une méthode d'autodéfense féministe qui a pour but de redonner du pouvoir aux femmes, retrouver sa capacité d'agir. Le but aussi, c'est de prévenir les agressions ou de sortir de situations désagréables, d'arrêter des situations d'agression. Si dans des situations, on a envie de répondre physiquement, c'est-à-dire on va apprendre à frapper. Dans la méthode Riposte, on utilise le Wendo. C'est une méthode, par exemple, de gestes de karaté simplifiés. On va aussi proposer des stratégies verbales. On va voir tout ce qu'on peut faire. Et il y a aussi des stratégies mentales. Par exemple, on se retrouve, un arrêt de bus, il y a quelqu'un qui vient nous poser des questions désagréables. Une stratégie, nous, qu'on peut voir ensemble, ça peut être par exemple de briser son isolement, ça va être de regarder quelqu'un, d'appeler quelqu'un, ou de faire des gestes, même de crier ou de parler fort pour attirer l'attention et de plus rester seul dans ces situations d'agression où l'agresseur, dans son schéma d'agression, il va compter sur notre peur, sur le fait qu'on ait honte, qu'on dit rien et qu'on reste seul.
À travers ces stages, Sem cherche à surmonter l'isolement provoqué par le sentiment d'insécurité. L'approche vise à trouver de l'aide non seulement en soi-même, mais aussi en s'appuyant sur la force du groupe.
Les femmes arrivent pour plein de raisons différentes, parce qu'elles ont entendu parler, par curiosité, parce qu'elles ont envie d'aider quelqu'un. Quand c'est des femmes racisées, femmes musulmanes précisément, il y a un constat de violence qui s'accentue souvent dans l'espace public. Elles viennent pour chercher des solutions. On a pris aussi pas mal de force, de puissance, du fait d'être ensemble, de bouger son corps, d'utiliser son corps pour se défendre, son corps, sa voix, son regard, tout. Du coup, il y a une espèce de recharge positive.
Aujourd'hui, Sem se sort de cette force retrouvée pour davantage s'affirmer dans l'espace public, mais aussi dans ses relations au quotidien. Après son coming out lesbien, son look change. Fini les mini-jupes et le maquillage. Sem s'affirme avec un look punk rock. Son style devient une arme face à la rue.
En fait, j'ai changé d'expression de genre. Je suis masculine. Du coup, j'ai un autre rapport à mon corps. Je me sens plus en confiance comme ça. C'est pas parce que j'ai des codes masculins que j'ai plus confiance en moi. C'est juste perso. Moi, je me sens bien comme ça. Ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire dans l'espace public pour être à l'aise. Mais je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins emmerdée, en fait.
Avec l'ARCAF, Sem tente de montrer aux femmes assistant au stage que le danger ne se trouve pas systématiquement dans une ruelle sombre. Selon le ministère de l'Intérieur,
environ 2/3 des victimes de coups et blessures volontaires enregistrées, en dehors du cadre familial, sont des hommes. Par contre, les femmes, elles, représentent 85% des victimes de violences intrafamiliales. Ce type d'information permet de questionner la façon dont notre sentiment d'insécurité est construit.
Personnellement, dans mon cas, le truc du grand frère, il était réel, quoi. C'est-à-dire, j'avais vraiment, le petit frère de ma mère qui faisait le grand frère. Et moi, ce que j'ai compris à cette époque-là, c'est que c'était aussi un gars qui était aussi dans la rue et qui traînait avec les gars qui étaient dans la rue. Et qu'en fait, il connaissait ce monde encore mieux que moi. Et du coup, c'était... Après, il l'a pas dit comme ça, hein, mais c'était vraiment un truc de... Puisque je peux pas agir sur mes potes, en fait, je vais agir sur ce qui est plus proche de moi, c'est-à-dire empêcher ma nièce d'être avec telle personne à telle heure dans un endroit, parce que sinon, c'est comme si elle était sexuellement disponible. Pour moi, c'était les hommes qui étaient dangereux, et les hommes sont dehors, du coup, dehors, c'est dangereux. Et puis, c'est aussi ce truc sexiste de dire que... de cadrer les femmes, quoi, de dire ben, dehors, c'est dangereux, mais à la maison, c'est génial, vas-y, reste. Alors que, voilà, il m'arrivait plein de trucs à la maison, quoi. Il y avait le tonton qui met la main dans la culotte. Il y avait ce genre de choses qui... là, par contre, il n'y avait pas de solution pour me protéger de ça.
En écrivant cet épisode, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais besoin de décentrer mon regard. Je ne m'étais jamais questionnée ainsi sur l'insécurité que je pouvais ressentir dans la sphère intime. En 2020, 54 800 personnes ont porté plainte pour des faits de violence sexuelle. Un chiffre qui s'explique par l'évolution du comportement due à la libération de la parole. Il n'y a donc pas plus d'agressions. Elles sont simplement plus visibles. Et cette visibilité permet de créer de la vigilance à d'autres endroits. Si une partie de notre sentiment d'insécurité est nourrie par des faits tangibles, comme le harcèlement de rue, j'ai compris que nos peurs altèrent nos biais cognitifs, régulièrement nourris par nos fantasmes et notre héritage socioculturel.
Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Estelle Janjo. Elle vous faisait entendre les témoignages de Sem et Patrick et les explications de Nathalie Georges et René Zoberman. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotion. Camille Bichler était en charge de la supervision éditoriale de cet épisode, accompagnée de Capucine Rouault. Marine Kéméré en a fait la réalisation et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas Degélis qui a composé le générique d'Émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur nos perceptions de la sécurité et de l'insécurité, je vous recommande l'écoute de « Sommes-nous égaux face à la prise de risque ?» un épisode d'Émotion signé Soukaina Kabal. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires, et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.